Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 7 décembre l'an 2000 à Saint-Jean-d'Or.
Cet après-midi, il n'y aura pas de cours à 18h. Ah, oui, à 18h. Parce qu'il y a une cérémonie chez nos sœurs contemplatives. Un peu trop serré. Mais on se rattrapera dans la veillée. La fois dernière, nous avions vu la vérité. Quel est l'acte et la puissance dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la vie spirituelle. Et alors, ce qui est très important, c'est de voir que pour nous, dans notre vie intellectuelle de connaissance, l'entelekeia s'impose d'une façon très remarquable. On dit par exemple, oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand vous dites, oui, ce que je vous dis, c'est la vérité, vous redupliquez sur votre connaissance en affirmant que c'est bien la vérité. Et la vérité, qu'on dit vérité formelle, est l'acte de mon intelligence. Et cet acte de mon intelligence est dépendant de l'acte d'être. Autrement dit, dans le domaine de la vie, et de la vie la plus spirituelle qui soit, la vie de l'intelligence, dans l'immanence, je demeure toujours dans l'entelekeia, ordonné à l'energeia, ordonné à l'acte. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Alors, je réponds à ces diverses questions avant de continuer cette question de vérité formelle et de vérité, comme on dit, ontologique, c'est-à-dire vérité de l'être. Vous avez dit que nous, les hommes, nous avons quelque chose de commun avec la vache. L'existence. Aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, difficile à voir ce commun. L'exister, c'est l'être en acte. Or, quand je regarde une pierre, je la trouve bien, bien amorphe. Cette pierre devant moi est-elle aussi en acte? Oui. Elle est en acte d'exister. Elle existe. Elle est. Alors, le monde physique, purement physique, est toujours dans un devenir. Et ne sort pas de ce devenir. Cette pierre, elle peut se désagréger. Si une goutte d'eau tombe toujours sur une pierre, toujours au même endroit, toutes les 2 minutes, au bout d'un certain temps, ça se creuse. Donc, il y a la corruption de la pierre. La pierre n'est plus la pierre. La pierre se corrompt. Alors, l'être de la pierre est toujours un être limité, terriblement limité dans son devenir. L'être de la vache a une immanence plus grande et une continuité plus grande. Mais la pauvre vache, elle peut aussi se corrompre. Sans la goutte d'eau qui tombe toujours sur elle. Elle se corrompt par elle-même. Et la pierre aussi, du reste, se corrompt par elle-même. Avec l'atmosphère. C'est bien ce phénomène tout à fait nouveau, n'est-ce pas, que partout on constate cela. Des pierres qui ont résisté jusque maintenant commencent à se corrompre. Pourquoi? Ben oui, l'atmosphère les corrompt. Comme l'atmosphère peut corrompre le vivant et peut corrompre aussi les pierres. Alors, ce qui est commun entre la pierre qui existe et moi-même qui existe, aux yeux de Dieu, c'est l'exister. Elle existe dans le devenir, mais elle existe, elle est. Et la vache, elle existe. Et j'existe. Quand vous voyez une vache, vous lui dites, oui, ma vieille, hein, j'existe avec toi, et vous lui donnez une bonne poignée de main, vous savez. C'est-à-dire, vous prenez son pied, une manière de se donner une communion dans l'ordre de l'être, quand on donne la main à quelqu'un. C'est sûr qu'elle est amorphe, la pierre. Elle ne vous parle pas beaucoup. Du moins, une vieille pierre, ça parle quand même. Mais ça n'a pas de voix. C'est amorphe. Il faut la toucher, il faut la caresser. Alors quand vous caressez une vieille pierre, vous comprenez qu'elle n'est pas amorphe. Elle vous dit quelque chose. Elle est. Est-ce qu'on peut dire que le jugement d'existence est dans le temps? Non, il n'est pas dans le temps, il est dans l'instant. Mais l'instant, c'est ce qu'il y a d'acte dans le temps. Ou plutôt, qu'il se fait dans le temps. Il est dans l'instant. Il se fait dans le temps. Mais il y a un instant particulier quand vous dites ceci est. Qu'est-ce qui mesure ce jugement d'existence? C'est l'instant actuel. L'instant actuel touche l'existé. Et par là est en relation avec l'éternité. C'est pour ça que saint Thomas dit, imaginativement, l'éternité, c'est l'instant subsistant. C'est l'instant subsistant. C'est comme un instant qui serait toujours instant. C'est une manière imaginative de penser, de s'imaginer l'éternité. C'est un instant qui ne passe pas. Notre instant, il passe tout de suite. Hein. Le début du cours n'est plus le début du cours. C'est maintenant. Et cet instant n'est plus maintenant. C'est tout de suite le passé. Il ne faut pas trop se faire ça parce que c'est vertigineux. C'est vrai. On existe dans l'instant. Vous n'existez pas dans le passé. Vous n'existez pas dans le... Et ça, c'est très important, ce comme ça. Parce que pour la relecture psychologique, vous voyez toute l'erreur. Vous ne pouvez pas revivre votre passé. Si vous le revivez, vous le revivez imaginativement. Et donc, ce n'est pas ça. Et vous le relisez en fonction de l'instant maintenant. Alors que vous l'avez vécu successivement. Et vous l'avez vécu réellement successivement. L'instant est passé, il est très élégant l'instant. Il laisse toujours la place à l'instant suivant. Il disparaît. C'est C'est comme ça que vous vivez. Une journée, comment ça se passe? Une succession d'actes. Et c'est votre imagination qui met le continu. C'est l'éternité qui continue. L'éternité ne passe pas. C'est donc un instant sans passé, sans futur. Un instant substantiel. Mais c'est imaginatif, mais c'est une très bonne imagination. Vous avez dit, au dernier cours, dans l'ordre de la vie, mon intelligence est première. Dans l'ordre de la vie, oui. Mais pourtant, en tant que puissance vitale, mon intelligence est relative à son objet, à la réalité existante, puisqu'elle est une puissance tout entière ordonnée à l'acte. Ainsi même, au niveau de la vie, elle ne semble pas première. Pourquoi ? Elle est première en sens qu'elle est acte. L'intelligence en tant que puissance, mais je prends l'intelligence dans son acte de connaissance. Aussi même au niveau de la vie, elle ne semble pas première. Ne devrait-on pas préciser alors qu'elle est première au niveau du vivant, qu'elle est première pour le vivant et non pas dans son exercice vital en tant que faculté. Attention. Dans son exercice vital, là, elle est ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. Mon intelligence n'est pas faite pour rester en puissance. Oui. Là, vous plaidez d'être fainéant. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ah, pas du tout. Être intelligent, c'est de connaître. C'est de chercher, c'est de contempler. Donc c'est toujours l'acte. Et c'est l'acte de mon intelligence qui est le sommet de la vie. C'est dans ce sens-là que la contemplation est le sommet de la vie. Mais pas la puissance. Bien sûr, la puissance est en vue de l'acte. Alors elle n'est pas première. Elle n'est ni première du côté de l'être, ni première au côté de la vie. Mais la contemplation est première du côté de la vie, pas du côté de l'être. La contemplation du côté de l'être est entelekeia et non energeia. Elle est l'ayance dans la fin. Entelekeia. Et elle est toute ordonnée à ce qu'elle contemple. C'est Dieu qui est l'acte suprême. Et mon intelligence reflète par la contemplation. Elle vit de ce premier. Elle vit dans ce premier. En arché, logos. Alors, mon intelligence contemplant, eh bien, ce qu'il y a de plus parfait dans l'ordre de la vie. Vous direz, au fond, cette contemplation, elle implique l'intelligence et l'amour. C'est la sagesse habitus contemplativus. La sagesse actue mon intelligence pour que mon intelligence puisse contempler. Et la sagesse implique l'union de l'intelligence et de la volonté, au-delà de la raison.
mon père, dans son encyclique Fides et Ratio, au quatrième paragraphe, le Saint-Père parle d'un noyau de fonctions philosophiques dont la présence est constante dans l'histoire de la pensée, et cite ensuite les principes, le principe de non-contradiction. Oui, les principes de non-contradiction, en réalité, c'est l'axiome de contradiction. Aristote aime de l'appeler l'axiome de contradiction. Et c'est très juste. L'axiome de contradiction, le principe de finalité, le principe de causalité. Pouvez-vous m'expliquer sur la distinction entre la finalité et la causalité? La finalité est la première des causalités. C'est la cause des causes. Qu'est-ce que le principe de non-contradiction ? Le principe de non-contradiction est un axiome. Une même chose ne peut pas être en même temps et sous le même rapport, être et ne pas être. Voilà, c'est un axiome. C'est un axiome parce que ça regarde une proposition et non pas en relation avec la réalité. C'est dans mon intelligence, si mon intelligence est bien faite, elle ne peut pas identifier l'être et le non-être. Étant donné que la connaissance de l'être est tout à fait première dans l'intelligence. Donc l'affirmation du non-être et de l'être est quelque chose de tout à fait fondamental et de premier. Et c'est donc ça que l'axiome de contradiction, c'est l'axiome premier de la vie de mon intelligence. Mon intelligence, si elle acceptait qu'on peut être en même temps être et non être, ne pourrait plus rien dire. Aristote a un long développement sur ce principe-là, qui est très beau. C'est que cet axiome de religion, vous l'affirmez tout le temps. Dans le simple fait que vous acceptez la distinction entre l'affirmation et la négation. Mais si vous n'acceptez plus la distinction, évidemment, c'est la même chose de dire ceci est et ceci n'est pas. Si vous dites ça, vous supprimez la vie de l'intelligence. Parce que mon intelligence est faite pour être relative à l'être, à ce qui est. Oui. Alors, donc là, nous sommes en face, en présence d'un axiome fondamental. La différence de l'axiome et de la causalité. L'axiome ne fait pas appel directement à un point de vue de l'existence. Elle fait appel à ce que signifie ma proposition. Être et non-être. Affirmation et négation, dans toute sa pureté. L'affirmation première, c'est ceci est. La négation première est radicale, ceci n'est pas. Toutes vos négations impliquent fondamentalement ceci n'est pas. Mais c'est la négation fondamentale. Ça. Et l'affirmation fondamentale, ceci est. Et donc, ceci est et ceci n'est pas ne peut pas être affirmé en même temps, sous le même aspect, sous le même rapport. C'est opposé. C'est l'opposition fondamentale. L'axiome de contradiction, c'est un axiome que je découvre au point de vue critique. Mon intelligence, radicalement, est autre, totalement, dans l'affirmation et la négation. C'est les deux opérations les plus opposées. Elles sont contradictoires. Elles ne sont pas contraires, mais contradictoires. Le principe de causalité finale exprime la causalité ultime. La causalité des causalités, c'est la causalité finale. Parce que je m'exerce, je m'applique à réaliser quelque chose, à faire quelque chose, parce que je suis motivé. On dira psychologiquement ça. Parce que je suis motivé. Mais comment êtes-vous motivé par la finalité ? Je veux réaliser cela. Je veux rechercher la vérité. Quand vous voulez rechercher la vérité, vous allez le plus loin possible dans l'analyse. Et tant que vous pouvez analyser, vous analysez pour saisir le point névralgique fondamental qu'on ne peut plus analyser, qui résiste à toute analyse. Donc vous avez la causalité finale qui est cause des causes, qui peut motiver la causalité efficiente. Vous agissez toujours en vue de quelque chose. Vous vous asseyez en vue de vous reposer. Et vous asseyez pour un cours en vue d'être plus capable d'écouter. Hein ? Vous finalisez d'être assis quand vous écoutez. Si vous vous endormez, eh bien, vous ne finalisez pas d'être assis. C'est du paracudance. La bête étant fatiguée, elle dort dès qu'elle est assise. Ça arrive, ça peut arriver ça. Mais ce n'est pas la finalité, c'est du paracudance, le hasard. Je me suis endormi. Alors, je ne le voulais pas, je voulais écouter. Mais je me suis endormi. J'étais très fatigué. Je n'en pouvais plus. Ça m'est arrivé. Mais vous ne vous êtes pas assis pour dormir. Normalement, vous vous couchez pour dormir. Et vous n'arrivez pas toujours à dormir. Et alors, à ce moment-là, vous vous asseyez sur votre lit. C'est mieux. C'est mieux parce que vous réfléchissez mieux quand vous êtes assis que quand vous êtes couché. Quand vous êtes couché, vous avez très vite des pensées bizarres. Ce en vue de quoi ? Causalité finale. Ce en vue de quoi ? Vous faites une activité. C'est ce en vue de quoi ? Et vous cherchez le ce en vue de quoi ? L'être en vue de quoi ? Être en acte, puisque l'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Il est l'imparfait ordonné au parfait. Et l'imparfait est toujours ordonné au parfait. Or, je ne connais ce qu'est l'imparfait que par le parfait. Je ne connais pas l'imparfait, je ne connais pas le parfait par l'imparfait. On est tous d'accord avec ça. C'est comme ça. Et constamment dans notre vie, on fait juste l'inverse. Ah, ceci m'a conditionné. Ah oui, ça. Et c'est pour ça que je le fais. Parce que ça m'a conditionné. Et oui, mais. Si ça vous a conditionné, ça ne vous a pas finalisé. Il faut arriver à distinguer les deux. Le conditionnement de vos activités. Le conditionnement de vos activités et la finalité de vos activités. Arrivez à distinguer ça. Si vous arrivez à distinguer ça, vous faites un progrès énorme. Le conditionnement vient de la cause matérielle. La finalité ne vient pas de la causalité matérielle, vient de ce qui vous attire. De la fin, du bien aimé pour lui-même. Ça, c'est très, très important. La recherche des causes propres, c'est la philosophie. La recherche du conditionnement, c'est constamment la psychologie. Le conditionnement, ça peut être très important. Parce que des êtres qui ne sont pas très finalisés sont très conditionnés. dans votre vie, vous avez toujours rencontré des gens très conditionnés. Ils sont extrêmement conditionnés. Ils ne peuvent s'asseoir que sur telle chaise. Ils ne peuvent dormir que dans tel lit. Et dans telles conditions, à droite ou à gauche, c'est très important, le conditionnement. Et c'est vrai que quand on est très fatigué, quand on est très vieux, on est beaucoup plus conditionné. Le conditionnement prend bien plus d'importance que quand on est jeune. On s'en fiche du conditionnement. Quelqu'un de jeune qui est fatigué dormirait par terre, n'a pas tout ça, aucune importance. Il dort, s'il est âgé et vous le mettez, il ne dormirait pas. Il est conditionné. Alors, pourquoi, lorsqu'on est plus âgé, et pour les civilisations, c'est comme ça. On a des cultures qui sont totalement conditionnées. La nôtre, actuelle, si encore c'est une culture. C'est le conditionnement qui commande toutes les lois d'aujourd'hui. Pas la finalité. Jamais la finalité. Ça, c'est la fin d'une civilisation. Elle meurt dans son conditionnement. Tandis qu'une culture jeune est très finalisée. Oui, ça se retrouve. Une loi doit être finalisée. Une loi qui regarde le conditionnement, ce n'est pas une loi. Oui, c'est simple. Parce qu'on n'éduque pas par le conditionnement. Par le conditionnement, on laisse la vache ruminer. Vous avez regardé les jeunes vaches ruminer. C'est extraordinaire, hein? Une charolaise, oh là là, c'est extraordinaire. On a envie d'aller auprès d'elle et puis de la battre, et dire pourquoi tu peux pas dormir un peu mieux. Et là, entre le sommeil et le repos, le conditionnement. Alors quand elle se lève, oh là, comme c'est pénible de sortir de son conditionnement. Et c'est très vrai, on n'a plus la même agilité, on sort de son conditionnement très difficilement. On met 5 minutes à se lever, à simplement se lever. Alors que si vous êtes bien vivant, immédiatement, vous êtes debout. C'est extraordinaire, c'est très intéressant, vous voyez, de voir la différence entre la finalité et le conditionnement. Le conditionnement, c'est constamment une condition sine qua non. S'il n'y a pas ça, je ne pourrais pas. C'est impossible. Si je n'ai pas ma canne, je ne pourrais pas me lever. Si je n'ai pas un point d'appui, je ne pourrais pas me lever. Je suis une masse trop forte, trop populaire, j'arrive pas. Ah, si, j'ai un appui, oui. Conditionnement. Bon, alors, on continue. Donc, regardez l'acte dans l'intelligence. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Parce que si on comprend cela, on distingue radicalement l'être et la vie. Et on ne fait pas la confusion entre les deux. Or, la confusion depuis Feuerbach, dans l'athéisme de Feuerbach, c'est la confusion entre l'être et la vie. Si vous êtes conscient de votre vie intellectuelle, vous avez conscience de votre autonomie. Vous avez conscience que plus votre autonomie grandit, plus vous êtes libre. Vous constatez, on constate, et on décrit ça. Et on cherche avant tout cette liberté. Alors que si vous cherchez au point de vue finalité, vous voyez que votre liberté dépend de votre finalité. si vous êtes finalisé profondément dans la recherche de la vérité, vous êtes libre du conditionnement. Et alors c'est pour ça que quand on ne cherche plus la finalité, on devient un petit vieux, entièrement conditionné quant à l'esprit. C'est terrible, un être entièrement conditionné par l'esprit. Il ne vit plus, parce qu'il ne recherche pas la vérité. C'est la finalité, la vérité. Et on cherche le conditionnement, c'est uniquement à pouvoir poser un acte libre. Alors on cherche le conditionnement. Je vois que mon intelligence, quand elle connaît une réalité et qu'elle veut que ce qu'elle dit soit vrai, elle voit et elle veut constater que ce que je dis est la réalité. Et non pas que d'affirmer ce que je dis peut être la vérité. Non, ce que je dis, c'est la réalité, parce que je le dis. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Nous n'avons jamais le droit de dire ça. Ce que nous pouvons n'est pas la réalité. Vous voyez, on distingue en Dieu, et c'est très, très juste de distinguer en Dieu au point de vue théologique, et on peut le faire au point de vue philosophique. Je peux très bien, au point de vue purement philosophique, voir les possibles de la connaissance de Dieu. Dieu, en se connaissant, connaît tous les possibles. Et puis, Dieu réalise, crée. Quelle est la différence entre cette intelligence des possibles et cette intelligence qui veut réaliser telle chose? Il y a la volonté entre les deux. Le bon plaisir de Dieu regarde la réalité. Et Dieu avait la possibilité de faire autre chose. C'est évident. Donc, connaissance. Je fais cette distinction. Est-ce qu'en Dieu, cette distinction existe? Ah, d'autre chose. La connaissance de Dieu est au-dessus de cela. Je fais cette distinction, moi, parce que je fais la distinction entre l'acte et la puissance. C'est une distinction métaphysique qui est dans la vie de mon intelligence. Mon intelligence passe de la puissance à l'acte. Normalement, de la puissance à l'acte. Avant d'assister à un cours, vous êtes en puissance vis-à-vis de ce qui va être dit. Si vous écoutez bien ce que dit le professeur, il actue votre intelligence. Votre intelligence est doublement actuée par la parole et par la réalité. Si vous vous contentez d'être actué par la parole, vous ne pouvez jamais dire ce que je dis est vrai. Vous devez dire ce que je dis est conforme à ce qu'a dit Aristote, à ce qu'a dit saint Thomas, à ce qu'a dit Cicéron. Vous vous référez au livre. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, au point de vue de la foi, la référence à la parole de Dieu, c'est une référence à la vérité, à la réalité, parce que c'est la parole de Dieu. Mais votre parole n'est pas la parole de Dieu. Donc, on peut très bien suivre un cours en se référant à la parole du professeur. on reste en référence à cette parole. Est-ce qu'on connaît la vérité ? Non. On connaît ce qui nous a été dit. Pour connaître la vérité, il faut reprendre le cheminement, voir comment l'expérience, je dis ça pour la philosophie, l'expérience me conduit à cela. Je peux répéter la distinction de l'acte et la puissance. On m'a dit ça. Bon. Le professeur y a pensé beaucoup. C'est suffisant, je ne refais pas tout. J'ai l'avantage de l'écouter et je profite de son expérience. Et donc je dis distinction de l'acte et la puissance. Et je répète ça. Vous répétez ça en fonction d'un cours, en fonction d'un livre, en fonction de tel enseignement. Mais la vérité, c'est que cette distinction relève de l'expérience. Et l'expérience au sens fort, c'est l'expérience de la réalité existante. Vous avez une expérience du cours, donc de ce qui a été dit, mais vous restez à ce qui a été dit. C'est très important de faire les distinctions entre les deux. La vérité, ce n'est pas la référence à ce qui a été dit. Ça reste une opinion, ça. La vérité, la référence à ce qui est. Donc, tant que vous restez en référence à ce qui a été dit, vous restez en référence au devenir d'une intelligence. Donc, à la vie d'une intelligence, pas à l'être. Et nous faisons nous-mêmes cette différence entre les deux. Si on est aristotélicien, on a pris Aristote comme maître. Et je répète ce que dit mon maître. Et je le dis, pour être honnête. Je peux aussi vous dire, ce que dit Aristote là, je vous affirme, c'est vrai. Reprenez l'expérience et vous verrez. Refaites l'induction et vous verrez. Et alors on vous indique la manière de passer de la parole qui a été dite, sur laquelle vous vous appuyez, à la réalité. À la réalité de l'être. Il faut bien comprendre que la vérité, c'est la référence à ce qui est. Alors, s'il n'y a plus de jugement d'existence, tout ce que vous dites est en référence avec ce qui a été dit. Aristote a dit ça, Auguste Comte a dit ça, Marx a dit ça. Et ils ont dit des choses contraires. Mais vous dites, ça n'a pas d'importance, c'est des choses contraires, mais ça a été dit. L'humanité, dans son devenir, a porté Aristote. L'humanité, dans son devenir, a porté Marx. L'humanité, dans son devenir, a porté Auguste Comte. Oui. L'humanité dans son devenir. Vous êtes dans le devenir de l'humanité. Donc, vous êtes dans l'opinion et vous n'êtes pas dans la vérité. C'est très important de voir. Et ce que vous dites, beaucoup de ce que vous dites, au point de vue philosophique, repose sur les paroles de quelqu'un. Jusqu'au jour où vous-même, vous avez eu soin de voir que ces paroles touchaient la réalité. Et à ce moment-là, vous êtes libre de l'autorité de celui qui a dit ça. Votre autorité, c'est l'expérience. C'est ce qui est. C'est ce qui est, l'expérience de ce qui est. Et c'est la réalité qui est votre maître. C'est très très important de distinguer les deux. C'est même indispensable pour comprendre le réalisme d'une philosophie. Une philosophie est réelle, est vraie, dans la mesure où elle se réfère à la réalité. C'est la force de ce que saint Thomas dit dans le De Veritate, question 1, article 1. Le vrai, c'est la conformité de l'intelligence à ce qui est. Tant que vous n'avez pas saisi ce qui est, vous ne pouvez pas parler de vérité. Vous parlez de conformité à l'opinion d'Aristote, de conformité à l'opinion de tel ou tel. Mais vous n'avez pas atteint la vérité. Votre recherche de la vérité s'arrête. Vous avez le droit de vous servir d'Aristote. Vous avez le droit de vous servir d'Auguste Comte. Vous avez le droit de vous servir de Marx. Et vous devez, si vous êtes philosophe, c'est-à-dire si vous cherchez la vérité, voir ce qui a été dit par Marx. Est-ce conforme à la réalité? Ce que dit Auguste Comte, est-ce que c'est conforme à la réalité? Tant que vous n'avez pas fait cette critique de l'opinion de tel philosophe, vous n'avancez pas en philosophie. Vous avancez dans la connaissance historique, dans la connaissance des opinions et des pensées des gens, mais vous n'avancez pas au point de vue philosophique. Vous voyez, l'exigence profonde de la recherche de la vérité. Et c'est vrai qu'en latin, il n'y a pas de mots distincts pour entelecheia et energeia. Tous les deux se traduisent par acte. Alors si vous ne faites pas grande attention, au bout d'un certain temps, c'est la même chose. L'acte de mon intelligence, c'est la vérité formelle. Cette vérité formelle doit être mesurée par la réalité. Et la réalité, comment la touchez-vous? Comment l'atteindre? Par le jugement. Le jugement seul atteint ce qui est. L'appréhension n'atteint pas ce qui est. Elle reste dans l'universel. Donc, elle se réfère au dire de quelqu'un. Celui-ci a dit ça à tel moment de sa vie. Et je suis nécessairement dépendant de l'opinion de quelqu'un. Si je suis dépendant de l'opinion de quelqu'un, je ne suis pas nécessairement dans la vérité. Est-ce que ce quelqu'un a dit la vérité ou font tout simplement rechercher la vérité? Et a pu varier. À une époque de sa vie, il a dit ça, à une autre époque de sa vie, ça. C'est normal. C'est tout à fait normal qu'au début de sa vie, on tâtonne. À la fin, normalement, on doit préciser ses tâtonnements. Et donc, on a une précision qu'on n'avait pas au début. Donc, il faut distinguer au point de vue, au point de vue de la vie. On ne sort pas de l'intellecheia. Au point de vue de l'être, on se conforme à ce qui est. La vie atteint l'intellecheia, mais elle atteint atteint l'intellekia avec le souci de faire que l'intellekia soit en conformité avec l'être. Je crois que c'est doit être extrêmement net dans votre esprit, ça. C'est capital pour comprendre justement pourquoi je ne puis pas m'arrêter à la réflexion phénoménologique. Je dois aller plus loin, je dois atteindre la réalité. Et là, vous voyez, c'est très important au point de vue de la foi. Si je suis chrétien, la foi me fait adhérer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole qui vient de Dieu, qui est de Dieu. En Dieu, la vérité formelle et la vérité ontologique sont un. C'est le propre du mystère de Dieu. Parce que son intelligence, c'est son être, c'est sa vie. Il n'y a que pour Dieu où son intelligence est son être. La tendance néoplatonicienne, c'est de vouloir faire de l'intelligence une substance. C'est donc de faire de l'intelligence soit première dans l'être. L'intelligence est un mode d'être très parfait, mais elle n'est pas première dans l'être, sauf en Dieu. En Dieu, l'intelligence de Dieu est son être, sa vie est son être. Et ceci est le propre de Dieu. Mon intelligence, elle, est le sommet de ma vie, très bien, mais elle n'est pas mon être. Mon être est substantiel dans mon âme. Mon être est substantiel dans mon âme. Mon être, au point de vue de la vie intellectuelle, est au sommet de toute ma vie, mais pas au sommet de mon être. Mon être est l'existence plus radicale, plus fondamentale que celle de la vie que j'ai au niveau intellectuel. Ma vie que j'ai au point de vue intellectuel a sans doute une noblesse plus grande, une finalité plus parfaite. C'est sûr, au point de vue finalité, c'est quelque chose d'ultime, mais au point de vue être, mon intelligence reste toujours seconde. Elle est première au point de vue de la fin. Elle est première au point de vue de la vie et de la fin. Et au point de vue de la fin, faisons attention. Si je prends la finalité au sens le plus réel, ma contemplation finalise toute ma vie, elle me finalise en tant qu'elle me fait vivre de Dieu, acte pur. Elle ne me finalise pas en tant qu'elle est l'opération la plus parfaite de mon intelligence. Si je prends ma contemplation comme l'opération la plus parfaite de mon intelligence et de ma vie spirituelle, ce n'est pas la contemplation qui me finalise. Elle est le moyen par lequel je suis finalisé. Je suis finalisé par ma contemplation. Mais ma contemplation atteint une réalité qui, elle, est ma fin. C'est Dieu. Et très facilement, on demeure dans ce qui me finalise pour considérer que c'est ça ma finalité. Non, c'est par ma contemplation que je me finalise, que j'atteins la réalité suprême. Et ça, c'est très important à distinguer. Oui, parce qu'autrement, je ne saisis plus vraiment ma fin. Ma contemplation n'est pas ma fin. Elle est le moyen par lequel je me finalise. Elle n'est pas ma fin. Parce que ma fin n'est pas dans ma vie. Elle n'est pas dans l'immanence. Elle est au-delà. Mais ma vie est suffisamment parfaite pour me finaliser. Parce que c'est une vie intellectuelle qui est tout ordonnée à l'autre, qui est mon acte, qui est ma fin. Si je confonds les deux, je confondrai ce que je vous ai déjà dit, la vérité et la sincérité. La sincérité consiste à dire ce que vous connaissez. Ce que je vous dis est conforme à ce que je connais. Ah, très bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce que je dis est conforme à la réalité. Ah, là, je suis dans la vérité. Je vois donc que la distinction de l'être et de l'acte ne se comprend parfaitement qu'en métaphysique, dans l'ordre de l'être. Elle ne peut pas se comprendre parfaitement du côté de la vie. Je dois dépasser la vie, ma vie, pour voir ce qui me finalise.